Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, peut-être que vous l'entendrez à ma voix, mais moi je sors d'une semaine entière clouée au lit où j'étais genre vraiment malade, comme quand j'étais en primaire. J'ai eu de la fièvre, genre 39,5, des frissons dans tout le corps, je faisais que tousser. Je tousse encore un petit peu et ma voix est encore en train de guérir, mais ça va, je peux enfin reprendre le podcast. Je sais pas vous, mais moi là, le mois de septembre, il a été, parce que bon là, dans 5 jours c'est fini, très particulier. Je sais pas combien je le note sur 10, ça a bien commencé, j'étais super motivée, et puis d'un coup, au milieu du mois là, ça m'a frappée, j'ai perdu toute confiance en moi. Mais vraiment, enfin, sortie de nulle part un peu, parce que ça allait très bien, mais j'ai vraiment perdu toute confiance en moi, ça fait 10 jours là que j'essaye de me dépatauger, de sortir de ce mauvais mood. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Enfin, depuis hier là, ça y est, c'est le début de la semaine. Je me suis dit, oh meuf, reprends-toi, fais-toi une petite journée, une petite matinée hier du coup, où tu fais des trucs qui te font du bien. J'étais boire mon petit café, j'étais marcher sur la plage, j'ai pris le temps d'écrire un petit peu tout ce qui était dans ma tête. Et je crois que je sais pourquoi je me sens pas très bien. Et du coup, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de comment t'avances quand t'es dans une phase de ta vie, ça se dit ? Un moment de ta vie où t'es dans le flou, où tu sais pas vraiment ce qui va se passer pour toi, où t'as pas vraiment de projet précis, tu sais juste qu'il y a des gros changements qui sont en train de se passer et t'es un petit peu en mode, t'essayes de naviguer et de garder la tête en dehors de l'eau, mais des fois il y a des petites vagues qui sont trop grosses et t'es en mode, allô, est-ce que je pourrais respirer ? Merci. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que c'est un peu comme ça que je me sens. Bon, on le sait tous, la vie, c'est un peu des montagnes russes, ou une grande roue plutôt. Genre, tu montes, puis ensuite tu redescends, puis ensuite tu remontes, puis ensuite tu redescends. Donc ça, maintenant, je l'ai compris. Il y a une période de ma vie où je le vivais très mal, ça. Où j'avais vraiment du mal à comprendre, je pensais que c'était un problème, que c'était moi qui avais un problème. Quand je suis rentrée dans ma vingtaine et que j'ai commencé à comprendre ce que c'était la vie, entre guillemets, pas d'adulte, parce que tu deviens pas un adulte quand t'as 20 ans. Enfin, je sais même pas quand est-ce qu'on devient un adulte, vraiment, mais bref, j'ai commencé à comprendre que c'était beaucoup de challenge, quoi. Mais le fait que j'ai du mal à être stable émotionnellement et à rester heureuse plus d'un mois sans avoir un moment de remise en question, je pensais que c'était un problème personnel et que j'étais juste une personne chiante. Et je m'en voulais de me sentir comme ça. Je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à rester heureuse en fait, à juste être heureuse, bien reconnaissante, avancer, me concentrer sur mes projets et faire les choses correctement sans tout le temps me remettre en question et me réveiller le matin et être triste pour des raisons qui me sont inconnues, enfin. Et puis avec le temps, je me suis juste rendu compte que tout le monde vit exactement la même chose. Certes, il y a des gens peut-être qui sont moins sensibles que d'autres et qui ont un peu moins ces montagnes russes, mais globalement, on est tous pareils. Genre, c'est tout le temps comme ça. T'as des moments où tu te sens plus down, où tu doutes de toi, et puis ensuite, tu remontes la pente petit à petit. Et c'est vrai que au plus les années passent, et au plus ça commence à se stabiliser, je crois. Enfin, en fait, maintenant, c'est bizarre, mais les moments où je me sens pas bien, disons que je panique moins et je dramatise moins la chose parce que je sais que ça veut aussi dire que dans quelques semaines ou quelques jours ou quelques mois, j'en sais rien, ça ira mieux. Je le sais. Et je sais que ça dépend aussi de moi et de la façon dont je vois les choses et comment je décide de bounce back, de me relever. Et c'est ce que j'essaye un peu de faire en ce moment-là. J'essaye de me pousser à juste être dans un bon mood et arrêter de trop dramatiser la chose. Parce que, désolée, je vous ai dit, ma voix, elle risque de partir des fois là. Mais vous le savez peut-être, ou peut-être pas, si vous êtes nouveau, mais je déménage. Voilà, je déménage et c'est pas un déménagement comme les autres parce que c'est un déménagement sur un autre continent. Donc, il y a 4 ans et demi maintenant. Oui, 4 ans et demi, c'est un truc de fou. En juin 2019, j'ai déménagé en Indonésie, sur l'île de Bali. Et là, en fait, au bout de 4 ans... C'est pas 4 ans et demi exactement, c'est 4 ans et quelques mois, en fait. J'abuse, je suis marseillaise. Bref, on va dire 4 ans. 4 ans après, je décide, enfin, on décide avec mon amoureux, du coup, que c'est le moment de fermer le chapitre Indonésie, pour l'instant, et de commencer de nouvelles aventures ailleurs. Notre plan, pour l'instant, sans vraiment avoir de plan précis, c'est de passer par la France, parce que pour moi, la France, c'est chez moi, c'est là où j'ai mes repères, c'est là où j'ai ma famille, c'est là où j'ai une maison. Donc, on va commencer par déménager chez mes parents. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont une grande maison dans la campagne, où j'ai énormément de place, j'ai une chambre à moi. Désolée, mais qui me... J'enregistre un podcast, les gars. Je vous aime tous, mais arrêtez de m'envoyer des messages. C'est ma mère, hein. Pensez pas que j'ai des potes, c'est juste ma mère. Du coup, ouais, j'ai la chance d'avoir une grande chambre spacieuse chez mes parents. Donc, on sera très bien là-bas. L'idée, c'est de commencer dans le sud de la France, histoire de quelques semaines. Et ensuite, pourquoi pas tenter Paris, la capitale de notre beau pays qui est la France. Pourquoi Paris? Tout simplement parce que niveau travail et opportunité, c'est un peu, je pense, le meilleur endroit pour nous, surtout pour Louis qui parle anglais et qui ne parle pas français encore. Donc, on va peut-être tenter Paris. Et ensuite, donc on va alterner, je pense qu'on prendra sûrement un Airbnb à Paris, puis on descendra dans le sud. Et on alternera un peu entre les deux. Je vais pas me précipiter et prendre un appartement à Paris directement parce que si ça nous plaît pas, enfin, j'ai pas envie de vivre 36 000 déménagements, j'ai pas envie de me mettre à acheter des meubles, à meubler un appartement pour au final ne pas me sentir bien et galérer, machin. Donc on va sûrement tenter Airbnb. Et puis si on se rend compte que la France c'est pas pour nous, on ira tenter ailleurs. J'ai quelques villes et pays dans ma liste, que je vais garder pour moi, quoique je peux vous en dire quelques-uns, mais le reste je garde pour moi. On s'était dit pourquoi pas Amsterdam, parce que Amsterdam, moi de toute façon, les Pays-Bas, la Hollande, j'ai toujours adoré. Amsterdam, c'est une super belle ville, j'y étais plusieurs fois, et il y a aussi beaucoup d'Indonésiens à Amsterdam. Je sais que c'est assez random, mais il y a des grandes, grandes communautés indonésiennes, parce que l'Indonésie a été colonisée par les Néerlandais il y a des années en arrière, mais du coup, il y a une grande histoire à ce niveau-là et il y a beaucoup d'expatriés indonésiens là-bas. Donc ça pourrait être cool pour Louis parce qu'il a déjà des potes qui sont là-bas, etc. Donc c'est une option. Ensuite, évidemment, New York. Ça, j'avoue, c'est plus mon petit dream à moi, mais j'ai des opportunités parce que j'ai ma famille américaine qui vit à une heure de New York. Ils ont plein de contacts et j'aurais peut-être moyen d'avoir un petit appartement pendant quelques temps, donc c'est une option. Voilà, c'est pas encore sûr, mais c'est une option. Et puis ensuite, je vous dis pas, je garde le secret. Mais bref, voilà. Tout ça, ça reste du potentiel. Enfin, c'est assez flou. Ça va. Enfin, le temps nous dira et seul le fait d'essayer et de faire les choses nous dira ce qui est bon pour nous. Enfin, bref, ma phrase n'avait aucun sens. J'espère que vous avez compris ce que j'essayais de dire. Qu'est-ce qui va pas alors, Daisy? Qu'est-ce qui va pas? Tu as à peu près un plan prédéfini. T'as la chance, surtout la grande chance de pouvoir te dire, ok, ça c'est possible. Ça, j'en ai conscience. Hein. J'en ai grandement conscience. Et c'est pour ça que je me dis, calme-toi, arrête de dramatiser. Au pire, du pire, tu pourras toujours rentrer chez tes parents. Voilà. Il n'y a aucune honte à ça. Il n'y a aucune honte à 25 ans de se dire, bah, si je fail quelque part, si ça ne marche pas, je peux rentrer chez mes parents. Au contraire, c'est une immense chance de pouvoir rentrer chez ses parents si ça ne va pas. Voilà. En fait, le truc qui me fait peur en ce moment, c'est le fait de me dire que d'ici quelques semaines, j'aurai plus vraiment de contrôle sur ma vie. Ça veut dire que en 4 ans, je me suis créé une petite stabilité ici. Je me suis créé une routine. J'ai ma petite maison, j'ai mes animaux, j'ai mon chéri, mon travail qui est plus ou moins le même depuis 4 ans. Et tout ça, ça fait que j'ai quand même une stabilité. Voilà, j'ai une petite routine, je me lève le matin, je fais à peu près les mêmes choses tous les jours. Et cette routine qui nous pousse aussi à vouloir partir. Parce qu'on a l'impression qu'on n'évolue plus. Voilà. Et ça, je pense que c'est un grand classique d'être dans sa vingtaine. Le fait d'avoir tout le temps être envie d'être en évolution, d'avoir tout le temps envie de, chaque année, d'avoir l'impression que tu fais des pas en avant parce que t'as l'impression que tu cours un peu après le temps. C'est vraiment le thème de la vingtaine. Et je veux rien entendre. Ne me dites pas, si c'est pas le thème de votre vingtaine à vous, gardez-le pour vous, les gars, je ne veux pas le savoir. Laissez-moi, dans ma petite bulle, de me dire que tout le monde vit la même chose dans sa vingtaine et qu'on est tous là à se dire « Oh my God, il faut que je fasse tout avant d'avoir 30 ans. » Je veux rien entendre, je sais que c'est vrai, ok? En tout cas, moi, ça l'est. Et je crois que je me suis jamais autant remise en question que là, à mes 25 ans. Je pensais que c'était une légende. Quand les gens me disaient « Ouais, tu vas avoir le quart de siècle. Tu vas voir. » J'étais là en mode « Mais laissez-moi tranquille. » En fait, oui, c'est vrai. Voilà, vous aviez raison. 25 ans, c'est un âge qui est challengeant parce que tout à l'heure, j'y pensais et désolée si je vais faire peur à certaines personnes, mais je me suis toujours vue maman vers mes 32 ans. Je sais pas pourquoi, c'est un truc, depuis que j'ai genre 20 ans, je me suis toujours dit « Bon, ok, si je dois avoir des enfants un jour, je les aurai sûrement quand j'aurai 32 ans. » Et cette semaine, j'ai une sorte de petit calcul qui s'est fait automatiquement dans ma tête et je me suis dit « Mais meuf, t'es plus proche de tes 32 ans, c'est-à-dire du moment où tu vas être maman, que de tes 15 ans. » Et ça les gars, je sais pas pourquoi ça m'a mise dans une angoisse et une panique alors que personne ne m'oblige à avoir des gosses à 32 ans. Genre personne, j'ai signé aucun contrat, c'est mon propre choix, genre calme, c'est même pas tranquille. Mais je sais pas pourquoi, et c'est là que ça m'a frappée, je me suis dit mais oh, ça y est en fait, là il faut que, ça y est j'ai 25 ans, genre je sais, bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de comment je gère mon anxiété face au flou qui arrive devant moi. Je vous disais donc que j'ai le contrôle sur ma vie en ce moment, enfin ici en tout cas, là depuis 4 ans, j'ai quand même la main, même si ça n'empêche pas d'avoir des doutes, des remises en question, etc. Je crois que le seul truc qui me tient un petit peu sur le bateau, ce qui me tient et qui m'évite de chavirer, c'est le fait que j'ai toujours l'impression d'avoir le contrôle et je crois que c'est un truc un peu malsain, mais j'ai une obsession du contrôle. Je suis pas du tout une personne spontanée. Attention, ça veut pas dire que je suis organisée. J'aimerais bien être obsessive du contrôle et être organisée. Au moins, ça aurait un petit peu d'utilité, tu vois. Mais non, moi, je sais pas comment l'expliquer. J'ai tout le temps cette obsession d'avoir le contrôle sur tout ce que je fais dans une journée. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est une to-do list. To-do list, j'arrive pas à parler. Pour savoir exactement ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui parce que de pas savoir ce que je vais faire dans la journée, c'est ma plus grosse angoisse. Genre ça m'angoisse, même le dimanche les gars. Même le dimanche où je devrais être en mode chill, je me mets dans mon canapé, je regarde des séries et tout, je n'y arrive pas, c'est impossible. Parce que le fait de ne pas savoir ce que je vais, genre le déroulement de ma journée, ça me fait peur, genre ça m'angoisse. Et ça, c'est un truc qui peut être aussi hyper contre-productif. Parce que au moindre imprévu dans la journée, au moindre retard sur ton agenda, genre, tu sais, tu te rends compte que t'avais 10 trucs à faire et t'en as fait que 2 alors qu'il est 3 heures de l'après-midi, tu vois, tu vas te paralyser. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je me sens hyper coupable. Et là, je me dis, mais je suis qu'une merde, mais j'arrive pas à m'organiser, mais c'est pas possible. Et pourquoi ? Et de toute façon, ça sert à rien, la journée, elle est foutue. et là tu te flagelles, c'est comme ça qu'on dit, et t'arrives plus à avancer. Donc je suis consciente qu'il y a absolument rien de productif et de positif dans l'obsession du contrôle. Parce que c'est assez bizarre, mais tu peux être obsédé du contrôle sans forcément avoir complètement le contrôle, parce qu'en fait c'est impossible. Voilà, c'est juste ça. Je pense que ce que j'essaie de contrôler, c'est surtout... J'arrive à parler. Je pense, je reprends, que ce que j'essaie de contrôler, c'est surtout le temps. Je vous en ai parlé plein de fois, j'ai fait un podcast dessus, j'ai peur du temps qui passe. Le temps qui passe, je pense que c'est ma plus grosse angoisse dans la vie. Et pour lutter contre ça, enfin, en tout cas, je pense à un truc que je fais automatiquement, bah, du coup, j'essaie de contrôler un maximum ce temps que j'ai, ces journées qui me sont données. Je me dis tous les matins quand je me lève, c'est une opportunité de faire un maximum de choses, d'avancer, d'être productive, entre guillemets. Sauf que du coup, ça laisse zéro place à la spontanéité. Et comme je le disais juste avant, attendez, mais c'est pas possible. Maman, je suis en train d'enregistrer un podcast. Je disais donc que ce n'était pas possible d'avoir le contrôle constamment. Genre, c'est pas possible de vivre avec cette envie parce que ça te mène à l'angoisse constante. Et je crois que j'avais fait un podcast sur ça. Les gars, on a fait tellement d'épisodes en 4 ans que je sais même plus de quoi j'ai parlé, de quoi j'ai pas parlé. Mais je crois que j'ai fait un épisode sur l'obsession du contrôle. Donc je vais pas commencer à rentrer trop dans ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus mon incapacité à être spontanée dans la vie. Ça m'arrive des fois de me forcer à l'être. Je prends un exemple. Mon mec, c'est l'opposé de moi. C'est-à-dire que lui, le contrôle, ça n'existe pas pour lui. Genre, il est dans un... C'est quoi son mantra qu'il dit tout le temps, là ? I'm just going with the flow. Et ça, je vous jure, quand il dit ça, j'ai envie de le prendre et de lui claquer sa tête contre un mur. Je suis en mode, mes frères, ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire ? Tu vas avec le flow, ça veut dire que le matin, tu te réveilles et tu te laisses guider par le vent, par la vie. Et c'est vrai, je dois l'avouer, qu'il est beaucoup plus chill et heureux que moi au quotidien. Je dis pas qu'il a passé un moment où il est pas bien, comme on est tous des humains, c'est la vie. Et il vit des choses compliquées aussi parfois. Mais globalement, c'est vrai qu'il se porte, sa santé mentale se porte quand même mieux que la mienne. Donc peut-être qu'il n'y a pas que sa théorie de son mantra de going with the flow est pas si bidon que ça. Mais du coup, on a eu une discussion aujourd'hui justement en parlant de ça. Parce que, en vrai, de vrai, sa façon de voir les choses et de vivre, elle a aussi ses défauts, parce que, en fait, dès qu'il va avoir un truc de prévu, dès qu'il va commencer à essayer de s'organiser ou de faire des plans, ça va l'angoisser. Et du coup, il est un peu incapable de faire ça, parce que ça va le stresser et il va appréhender la chose, et au final, ça l'aide pas non plus. Mais bref. Parfois, genre il va se lever le matin puis il va me dire « Oh ben, viens ce soir, on va camper. » Genre, viens ce soir, on prend la moto et on va camper. Mon mec adore le camping, vraiment. Je crois que c'est une de ses passions numéro 1 dans la vie. C'est fou. Genre, à son anniversaire, je lui ai littéralement offert une tente Décathlon, un matelas gonflable. Il était la personne la plus heureuse du monde. Genre, voilà, comment rendre un homme heureux? Et parfois, il me dit ça et je suis dans l'incapacité de dire oui. C'est-à-dire que si tu ne me préviens pas minimum 2 jours avant, je vais me mettre en stress. Et bon, en soi, on a tous du travail, ok, d'accord? Donc en vrai, de vrai, je pense que c'est valable un peu pour tout le monde. Quand quelqu'un te dit aux dernières minutes, viens, on part là, si tu as un patron et que t'as des horaires et que t'as un travail, tu peux pas prendre un week-end ou des congés comme ça sur un coup de tête. Moi, j'ai la chance d'être mon propre patron. Enfin, je travaille, j'ai une agence, mais... Et j'ai des clients aussi, j'ai des marques à qui je dois, des previews, etc. Donc, j'ai des deadlines, etc. Mais c'est moi qui gère mon temps. Donc, ça me laisse quand même assez... Enfin, je suis assez flex. Pourquoi cette phrase me dérange? Je suis assez flex. Je n'aime pas cette phrase. On va la changer. Je suis assez libre et c'est une chance dont je ne prends pas du tout avantage. Et parfois, j'ai le FOMO, genre je me dis, mais meuf, qu'est-ce que t'es en train de passer à côté de ta jeunesse parce que tu ne veux jamais... Enfin, soit t'as la chance de pouvoir être spontané. T'as de la chance de pouvoir te dire, bon, ok, enfin, en vrai, je gère mon temps. Si là, sur un coup de tête, j'ai envie d'aller faire ça, il y a 80% de chances que je puisse le faire sans que ça affecte trop mon travail. Et je peux très bien me dire, ok, bon, ben, ce soir, je vais partir faire du camping et puis demain, je me rattraperai en bossant un peu plus et voilà, quoi. Enfin, j'ai la possibilité de faire ça. Mais c'est pas possible parce que même si je le fais, même si je me force à le faire, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me forcer à me dire, bon, il faut que je sois spontanée, il faut que je fasse les choses sur un coup de tête, il faut que je sois un peu plus jeune, un peu plus libre, un peu plus... pas audacieuse, comment on dit ? Aventurière, voilà. Et en fait, je n'arrivais pas à profiter parce que tout ce dont à quoi je pensais, je fais que des phrases compliquées aujourd'hui. La seule chose que j'avais en tête quand je vivais le moment, c'était « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et là, je ne suis pas productive et je devrais être en train de faire ça. Et ça me met en retard. » Et c'est que des angoisses comme ça pour, au final, que je n'arrive pas vraiment à profiter du moment parce que pour moi, ce n'était pas prévu et donc ce n'était pas contrôlé. Et donc, ce n'est pas bien ce que je suis en train de faire. Et là, vous allez me dire en quoi ça a un rapport avec ce que tu nous disais au début du podcast et ta vie en ce moment. En fait, j'angoisse de me dire que d'ici quelques semaines, même si j'ai à peu près un plan, j'aurai pas vraiment de stabilité. Alors vous allez me dire que la stabilité, ça se... Enfin, tu peux la trouver autre part que dans une routine au quotidien. La stabilité, ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qui te fait te sentir stable dans le sens où t'as un pilier. Et en vrai, des piliers dans ma vie, j'en ai quand même pas mal. J'ai mes proches, mes parents, mon petit frère, mon amoureux qui est là aussi, même si j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. Et je pense que ça mérite un podcast à part entière, mais les gens qui trouvent un pilier dans leur relation amoureuse, moi, c'est un truc qui me fait giga peur. Genre de me dire que mon pilier, c'est mon partenaire, j'y arrive pas à me dire ça. Parce que même si je crois en l'amour et même si j'ai un exemple au niveau de mes parents, par exemple, qui sont ensemble depuis plus de 30 ans et qui s'aiment, c'est presque dégoûtant de les voir ensemble. Genre, je les aime, je vous aime, maman, je t'aime. Je sais qu'elle écoute le podcast, mais genre, des fois, de les voir ensemble, je me dis, genre, oh, c'est trop d'amour. Genre, partez loin, là, arrêtez de vous faire des bisous. Bref, je crois en l'amour, mais je sais pas pourquoi j'ai ce truc quand même de me dire il y a possibilité que cette personne ne soit plus là. Et de me dire que cette personne est mon pilier, ça me fait peur parce que je pense que je l'ai déjà fait avant, dans mes anciennes relations. Et quand ça s'est terminé, la souffrance, elle était double. Parce que t'avais la souffrance de perdre ta relation avec la personne et de perdre ce côté amoureux, évidemment, affectif. Mais en plus de ça, tu perds un pilier et du coup, t'as l'impression que ta vie n'a plus aucun sens et t'as vraiment du mal à te reconstruire en tant que personne toute seule parce que justement, t'as fait tellement dépendre... Enfin, t'avais tellement de choses qui dépendaient de cette personne et t'accrochais tellement de choses à ce pilier. Genre, tu vois, j'ai pas de métaphore en tête. J'essaie de faire un truc, j'y arrive pas, mais je pense que vous avez compris que du coup, ben, quand cette personne n'est plus là, ben, c'est tout ton monde entre guillemets qui s'effondre et ça je veux plus le vivre. Genre c'est une sorte de protection que je me mets. Ça veut pas dire que je fais pas confiance à mon amoureux, ça veut pas dire que je me donne pas à 100% dans la relation ni rien, ça veut juste dire que j'ai pas envie de me dire que mon partenaire c'est mon pilier. Je veux être mon propre pilier et à la limite mes proches, genre mes parents, je sais que j'ai aucun risque, enfin je leur fais 100% confiance, c'est mes meilleurs potes. Mon petit frère aussi. Genre, je sais que mon petit frère, je pourrais toute ma vie me dire que mon petit frère, c'est un pilier pour moi. Voilà. mais je me suis un peu égarée là. Je sais plus de quoi je parlais. Je sais plus de quoi je parlais. Ah oui. Là, ce qui me fait peur, c'est juste de me dire que bah, je vais être un peu dans le flou parce que je ne sais pas ce qui arrive. Je vais arriver chez mes parents et puis là, on va devoir aller tester des endroits. Tester des endroits et j'ai pas vraiment de... Je sais pas ce qui m'attend. Je sais pas ce qui m'attend. J'aurai pas de domicile... Enfin, si. J'allais dire j'aurai pas de domicile fixe, mais il y aura chez mes parents, mais je veux dire, on n'aura pas notre chez nous, comme là on avait pendant 4 ans. On n'aura plus de chez nous, avec notre décoration, avec notre intérieur. Ça, je sais que ça va réarriver. Je sais que c'est dans les plans et qu'on trouvera un chez nous. Mais je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je ne sais pas pendant combien de mois on va être dans le flou, dans le doute de là où aller, de là où s'installer, de où est-ce qu'on veut faire notre vie, etc. Je sais que là, l'année qui arrive, ça va être une année de recherche et d'expérimentation et d'imprévu. Et du coup, qu'il va falloir que je sois spontanée et que j'accepte. Que j'accepte que ben là, pendant un certain temps, il va falloir que je lâche cette envie de contrôle constant parce qu'elle ne m'aide pas et que peut-être je passe à côté de plein de choses à cause de cette obsession de vouloir tout contrôler tout le temps. Que du coup, je m'enferme dans tout ce qui me rassure et dans cette zone de confort, en fait. En fait, c'est ça, hein, voilà. Ni plus ni moins. Cette zone de confort et que du coup, je m'empêche d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. Parce que rien que l'idée de me dire que j'aurais pas le contrôle et que c'est pas ce que moi, j'avais prévu de base, ben, ça me terrifie. Voilà. Ça me terrifie. Et donc, je pense que inconsciemment, c'est un peu ce qui a causé ce mois de septembre où j'ai perdu un peu toute confiance en moi parce que, encore une fois, t'as toujours l'impression que les autres autour de toi, ils savent. T'as toujours l'impression que c'est mieux et que tout le monde est... Enfin, en tout cas, quand tu regardes de l'extérieur, sur les réseaux et même dans la vraie vie, en fait, ton entourage et tout, t'auras toujours cette personne pour qui ça a l'air tellement plus facile. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile pour cette personne? Non. Voilà, c'est sûrement qu'une impression. Et si tu parlais avec cette personne un peu plus profondément... oh là là, j'utilise que des phrases bizarres aujourd'hui. Si tu parlais un peu plus avec cette personne, peut-être que tu te rendrais compte qu'elle a exactement les mêmes doutes et les mêmes inquiétudes que toi. Mais c'est toujours comme ça, t'as toujours l'impression que c'est plus facile pour les autres. Et là, au mois de septembre, c'est exactement ce ressenti que j'ai eu. Le ressenti du caliméro, que je déteste. Ce truc de se dire genre, y a que moi qui suis nulle, je sais pas où je vais, je suis dans le flou, et tout le monde y arrive très bien, et tout le monde a des projets de fou, et t'as l'impression que leur vie, là, est déjà planifiée jusqu'à décembre, et que tout est bien devant eux, tracé, qu'ils ont juste à suivre leur petit plan et que tout se passe très bien. Et toi, ton plan, c'est un dessin de maternelle. Ton plan, c'est le dessin d'un enfant de 5 ans qui dit « Ok, alors je vais faire ça, petit point A, petit point B, puis ensuite, c'est du gribouillis. C'est des traits rouges et oranges. Et c'est juste en mode « Bon, ben, on verra bien. » Et je crois que c'est ça, voilà. C'est ce truc-là, le truc de « On verra bien » qui... me fait peur et qui crée ce truc de comment je fais pour avancer quand tout est flou. Et je sais que tout n'est pas flou et que je dramatise la chose parce que, en vrai de vrai, ça va. Il y a quand même plein d'aspects de ma vie qui ne sont pas flous. Mais en fait, j'ai l'impression que si une chose devient un peu floue, tout le reste devient flou. C'est comme ça que ça marche chez moi. Et c'est un peu insupportable parce que je crois que je l'ai dit en début de podcast, mais je suis hyper sensible. Pas en mode hyper sensible comme tout le monde dit, oui je suis hyper sensible, j'y connais rien à ça, juste je suis une personne sensible. Voilà, je le sais. Et un petit truc peut me rendre complètement un mess. J'ai vraiment du mal à gérer mes émotions, qu'elles soient positives ou négative, c'est toujours comme ça. Et rien qu'une petite émotion négative peut me transformer en messe et je peux être en boucle dessus pendant toute la journée. Ça, c'est chiant. Voilà, c'est chiant, mais c'est moi. J'imagine bien que si je reprends la thérapie et que je bosse dessus, ça pourrait aller mieux. Pour l'instant, je le fais pas. Donc, c'est sûrement ma faute. Mais je le sais, je suis comme ça. Je suis comme ça. Et du coup, là, le fait d'avoir juste ce sort de petit flou, bah, ça rend tout flou, en fait. Je remets tout en question. Je me dis, mais du coup, est-ce que je devrais continuer à faire le travail que je fais? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que le fait de ne pas vraiment savoir où on va aller et savoir ce qui va se passer, est-ce que j'aurai de l'inspiration? Est-ce que j'aurai l'envie de faire des vidéos? Est-ce que je vais avoir des contrats? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que notre couple, ça va aller? Est-ce que ça va pas ruiner notre couple? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et d'une seule petite incertitude, t'as tout qui devient incertain. Et là, t'es en mode, ok, comment on fait là? Comment on fait pour avancer? Eh bien, tu sors les lampes torches. Voilà, on passe au côté positif du podcast et ce que j'essaie de me dire depuis hier matin. Voilà, on savait pas longtemps, ok. Laissez-moi tranquille. Je vous ai dit, c'était pas top septembre. Là, je remonte la pente, ok. Tu sors les lampes torches et tu prends les choses petit à petit, comme elles viennent. Tu peux pas voir très très loin avec une lampe torche. Voilà. Quand t'es dans le flou, quand on va faire une métaphore, enfin on va se mettre dans une situation. Disons que, voilà, là, je parle moi de mon déménagement, mais ça peut être quelque chose complètement différent pour toi qui écoutes ce podcast. Ça peut être, tu te sens dans le flou dans tes études, tu te sens dans le flou dans ta relation, tu te sens dans le flou dans ton travail, dans ta situation familiale, peu importe. Ce truc qui crée cette incertitude dans ta vie et ce flou de sentiment d'être perdu et de pas trop savoir comment avancer, on va le traduire en brouillard. C'est-à-dire que t'es un petit peu dans le noir, il y a du brouillard et tout ce que tu peux voir, c'est ce qu'il y a là devant toi. Parce que t'as une petite lampe torche, peut-être la lampe de ton iPhone ou de ton téléphone. Il faut que j'arrête de... Apple me matrixe la tête. J'ai l'impression que toute la terre entière a un iPhone. Vous dites iPhone ou iPhone? Parce que moi, je dis iPhone, mais je crois que les gens disent iPhone. Non, moi, je dis iPhone et je crois que les gens disent iPhone. Bref, on s'en tape. T'as la lumière de ton téléphone qui est allumée et tu vois pas très très loin avec. Mais tu vois ce qui se passe devant toi. Et le seul choix que t'as là maintenant, quand t'es dans le flou, c'est d'avancer petit pas par petit pas vers ce que tu vois. Tu peux pas te permettre d'aller trop vite parce que bah, tu peux peut-être... louper un obstacle sur la route. Genre imagine, voilà, t'as ton téléphone et là d'un coup tu te mets à paniquer et tu te mets à courir, tu vas te casser la gueule parce que tu vois rien, c'est flou. Donc tu vas devoir aller doucement, tu n'as pas le choix, tu vas avancer petit à petit et en faisant ça en fait, en ne pas paniquant et en avançant doucement, tranquillement tous les matins en te réveillant en disant ok, c'est encore un peu flou mais vu que je prends le temps, je peux voir les obstacles, je peux... S'il y a un petit bout de bois au milieu de la route, je l'ai vu et je peux l'éviter. Je ne sais pas exactement où est-ce que je veux en venir avec cette métaphore, mais je crois que parfois dans la vie, tu n'as juste pas le choix que de respirer et de faire comme Louis fait au quotidien, prendre les choses comme elles viennent et arrêter de paniquer. Je crois que j'ai mon chat qui essaye de me dire quelque chose. J'arrive mon chat, j'arrive. Effectivement, elle avait faim. C'est fou parce que mes animaux, je crois que c'est le truc qui fait que je me sens toujours à peu près utile. Et je crois que c'est eux mes vrais piliers, ma stabilité. C'est un peu too much peut-être et un peu ridicule de dire ça, mais je vous jure que depuis que j'ai des animaux dans ma vie, il n'y a pas un jour où je souris pas et je me sens pas chanceuse. C'est peut-être ça, hein, avoir des enfants. Peut-être que quand j'aurai des enfants, je ressentirai ce sentiment fois mille, parce que je compare pas des animaux à des enfants, mais presque. Genre, le fait d'avoir mes bébés et juste le bonheur qu'ils m'apportent au quotidien, alors que, enfin, le fait qu'ils s'en foutent complètement de mon niveau de productivité, qui s'en foutent complètement des erreurs que je fais, de la... Genre juste, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'amour et ils veulent m'aimer en retour, genre. Et ça, je trouve ça génial. Bref, rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Dans la vie, parfois, il faut juste ne pas vouloir brûler les étapes et accepter quand tu peux pas forcément avoir le contrôle parce que tu sais pas vraiment ce qui t'attend. Et même si c'est effrayant, même si ça fait peur, et même si t'as l'impression dans le moment que t'es nul, inutile, tous ces trucs horribles que tu te dis à toi-même, parce que comme je disais, vu que t'as l'impression que ça marche mieux pour les autres et que tout le monde fait mieux que toi, bah tu vas te dévaloriser et tu vas te persuader que c'est vrai, alors que c'est faux. Genre, être dans le flou, il n'y a rien de plus normal que t'aies 19, 20, 30, 40 ans, peu importe, à n'importe quel moment de ta vie, être dans le flou, il n'y a rien de plus normal comme sentiment. Et c'est même une belle chose. En tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire. Je me dis que bah là, ça veut dire que je vais avoir ce moment de flou, mais une fois que ce flou va se dégager petit à petit, derrière, il va y avoir ce soulagement de me dire « Oh, ça n'était pas pour rien. J'ai eu ce moment de flou parce que justement, ça m'a guidée vers cette destination qui est trop bien. » Quand le brouillard s'enlève, qu'il commence à faire plus clair et que t'enlèves le flash de ton téléphone et que t'arrives à cet endroit qui était inconnu pour toi et qui était un grand mystère, c'est le soulagement. Et tu dis, oh, c'était pas pour rien. Toute cette galère et ce chemin et ces embûches et tout, c'était pour ça. Et même si pour l'instant tu le sais pas et que cette destination, ça restera une surprise et qu'elle est inconnue, elle est bien là, ok ? Elle est là. Y a pas de... C'est pas discutable. Il y a un truc qui arrive pour toi. Et du coup, pour revenir à la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec mon chéri, il me disait que... parce que je lui faisais part de mes angoisses. Parce que ce matin, je me suis réveillée et il était pas bien. Et c'est la première fois, depuis qu'on a pris la décision de déménager, que je sens qu'il est stressé, qu'il est pas bien. Depuis le début, il est extrêmement détendu, extrêmement chill face à ce changement. Et parfois, c'est même énervant. T'es là en mode, frère, je m'inquiète plus pour toi que tu ne t'inquiètes pour toi-même. Il y a un problème, tu vois. Et je pense que vu que là, il ne nous reste plus que 6 semaines, pour être très exact, à Bali, dans notre maison, je sens qu'il commence un petit peu à pas être bien. Et du coup, on a eu une conversation et lui, il m'expliquait les raisons pour lesquelles il allait pas, enfin, qu'il était un petit peu stressé. Et moi, je lui expliquais les miennes. Je peux pas vous raconter les siennes parce que déjà, enfin, c'est pas son podcast. Quand il me parle à moi, je me sens pas de... C'est assez vulnérable et j'ai pas envie de vous raconter ça, quoi. Mais je peux, du coup, vous raconter les miennes. Je lui ai dit exactement ce que je viens de vous dire. Le fait que on va être dans l'incertitude et qu'on saura pas vraiment. Même si on a un plan, même si on a la chance de pouvoir tenter les choses et d'essayer... Bah, le fait de pas vraiment savoir ce qui nous attend, moi ça m'angoisse et j'ai peur que ça me paralyse. J'ai juste peur que de pas avoir forcément le contrôle sur tout ce qui se passe, que j'arrive pas à avancer et que je me paralyse et que j'arrive pas à être inspirée, que j'arrive pas à travailler correctement, que j'arrive pas même à être sociable, que juste toute cette angoisse me paralyse et que je devienne juste une boule d'anxiété et que je devienne un peu inutile, quoi. Et il m'a dit, mais non. Il m'a dit, dis-toi que... Il m'a donné l'exemple parfait dont moi, enfin, je m'étais même pas... J'y avais même pas pensé. Mais il m'a dit, regarde tes parents. Ils vous ont eu dans leur trentaine. Ma mère avait 32 ans. Hence why je veux des enfants à 32 ans. Lol. Je suis une copycat de ma mère. C'est-à-dire que... mon modèle dans la vie, c'est trop cliché, c'est... Pff, oh mon Dieu, mais... Je veux être ma mère, voilà. Tout le monde le sait maintenant, c'est mon idole. Il y a des gens, ils ont Beyoncé, moi j'ai ma mère, voilà. Mais bref, ma mère m'a eu à 32 ans, mon papa avait 36 ans, ensuite ils ont eu mon petit frère 3 ans après, enfin bref. Et même en nous ayant nous, je sais que eux, leur vie, ça a toujours été le doute et l'incertitude de savoir où aller. Ils ont toujours eu la bougeotte. Avant de m'avoir, ils étaient en tour du monde. Quand ils m'ont eu, on n'a fait que déménager. Ça veut dire que moi, mon enfance, ça a été des constants déménagements. Et je pense que ça joue aussi avec la sensation que j'ai maintenant de... Je pense que je reproduis un petit peu, sans forcément le vouloir, mais je pense que c'est ça. Mais du coup, je suis née, on est parti au Portugal, ensuite on est parti aux États-Unis. Ensuite, j'ai vécu dans un Club Med pendant genre un an de ma vie parce que mes parents travaillaient là-bas. Puis après, on est parti en Martinique, en République Dominicaine, retourné aux États-Unis. On habitait dans le sud de la France, puis ensuite on est reparti, puis on est revenu. Enfin bref, mon enfance a été très mouvementée et c'était génial. Franchement, c'était génial. Je sais que mes parents ont été beaucoup critiqués à l'époque par notre entourage, par notre famille, par leurs amis, parce que tout le monde leur disait « Mais vous vous rendez pas compte, mais qu'est-ce que vous faites à vos enfants ? Ils ont aucune stabilité, ils se font pas de copains, et machin. » Au final, moi, je retiens que du positif de ça. Je rencontrais toujours de nouvelles personnes. Comme je disais, j'avais mon petit frère, ça nous a énormément rapprochés. Le fait d'être deux enfants et de tout le temps être en train de déménager. En fait, moi, tant que j'avais mon petit frère, j'étais bien. Enfin, j'étais bien. On était les meilleurs copains du monde, on passait notre temps ensemble, que ce soit à l'école, en rentrant de l'école. Genre, bref, mon petit frère, quoi. Et ça ne m'a pas empêché de me faire des potes d'enfance. J'ai des amis avec qui je suis toujours en contact et chez qui je pourrais débarquer du jour au lendemain. Je sais qu'ils m'accueilleraient parce que c'est des amis que j'ai depuis que genre j'ai 6-8 ans, quoi. Alors qu'on a peut-être habité dans la même ville pendant un an, mais ça n'empêche pas que j'ai des potes d'enfance et j'ai plein de souvenirs incroyables de tous ces déménagements. Quand t'es enfant, c'est beaucoup plus simple. Je sais pas comment dire, mais quand t'es enfant, tant que t'es avec tes parents et tes frères, moi, mon frère, en l'occurrence, mais tant que tes parents sont là, que t'as à manger, que tu vas à l'école, que t'as joué dans ta chambre, t'es bien. Voilà. L'enfance, c'est facile. Enfin, en tout cas, moi, enfant privilégié, mon enfance était facile. J'en ai conscience. Et je suis certainement pas en train de dire que toutes les enfances étaient faciles pour tout le monde. Voilà, je le sais, j'en suis extrêmement reconnaissante. Et je mesure la chance que j'ai eue de naître dans une famille comme la mienne. Franchement, voilà, au moins c'est dit. Je veux pas avoir l'air, je veux pas faire une généralité. Je sais que pas tout le monde a eu la même chance à ce niveau-là. Mais du coup... Pour en revenir à ce que mes parents ont fait, c'est-à-dire que ils étaient perdus, ils étaient dans le flou de savoir exactement où aller, ils ont tenté plein de choses différentes, ils ont eu plein de travail différents, plein de business différents, et ils ont toujours su retomber sur leurs pieds avec deux enfants, et au final, le moment où ils se sont vraiment posés, c'était dans leur quarantaine. Dans leur quarantaine, ils ont trouvé leur petite havre de paix dans le sud de la France, leur petite maison qu'ils ont rénovée tous les deux en amoureux. Encore une fois, je vous avais prévenu mes parents, c'est un petit peu dégoûtant d'amour leur histoire, mais bref. Ils ont fait leur... Voilà, ils ont toujours cette maison aujourd'hui. Ça fait plus de 12 ans maintenant, 15 ans je crois, 15 ans déjà, qu'on s'est installé dans le sud. Donc moi en fait, à l'âge de... 11 ans, c'est là où j'ai arrêté de déménager. Je suis rentrée au collège. En fait, ouais, c'est quand je suis rentrée au collège qu'on a arrêté de déménager et qu'on est resté au même endroit. Donc en vrai, quand même, pendant 10 ans de ma vie, jusqu'à mes 21 ans, je n'avais pas déménagé et on restait dans le sud. On s'était vraiment calmé au niveau des voyages, etc. On s'est installé dans le sud et il y a eu ce moment de... adolescence et stabilité, et je pense qu'ils ont été très intelligents parce que en vrai de vrai, c'est là où un enfant a besoin, entre guillemets, de rester dans un endroit, c'est quand il se construit. Je pense qu'il n'y a pas... Je sais pas comment aurait été mon adolescence si on avait continué à voyager constamment, mais j'imagine que ça aurait été plus dur à vivre Parce que quand t'es adolescent, c'est aussi là où tu commences à avoir tes premiers sentiments forts, amicalement, amoureusement. Et je pense que ça m'aurait déchiré le cœur de devoir à chaque fois changer de ville, etc. Donc je pense qu'ils ont été hyper intelligents de se poser au moment où c'était l'adolescence qui commençait, quoi. Surtout que j'ai eu une adolescence hyper précoce. Oh, ça aussi, il faudrait que je fasse un podcast compilation de toutes les choses que j'ai faites. Enfin, juste sur ma crise d'adolescence qui a été intense. Courte, mais intense, et qui a commencé tellement jeune. C'est-à-dire qu'à 13 ans, les gars, j'étais adolescente. À 13 ans, j'étais en plein dedans et j'étais wild. Genre, je sais pas comment expliquer, mais j'étais. Genre, je me dis, mais si j'ai une fille comme ça, mais à l'aide, hein, à l'aide. Je sais que ça a pas l'air parce qu'aujourd'hui, je crois que je suis assez calme et que je suis une grand-mère. Genre, j'ai 25 ans, je suis une mamie. Mais je vous jure que quand j'avais 14 ans, c'était un enfer. J'étais insupportable. Et je faisais que des conneries. Genre, c'est mes parents, vraiment, ils méritent des médailles d'or. C'est fou. Mais du coup, quand Louis m'a donné cet exemple de mes parents, je vous jure, ça m'a un petit peu, genre, soulagée d'un poids. Je me suis dit, mais en fait, oui. Les personnes que tu admires le plus dans ta vie, et même pas que tes parents, en fait, plein d'autres personnes comme ça, qui n'ont pas forcément trouvé des réponses avant un certain moment de leur vie. En fait, il faut parfois lâcher prise et arrêter avec cette obsession de tout le temps avoir des réponses et de tout le temps avoir un plan précis. La vie, c'est pas forcément ça. Tu peux être heureux sans avoir de plan et en simplement essayant les choses et en prenant les choses comme elles viennent et en étant plus spontané. Je pense que j'arriverai jamais à lâcher cette obsession du contrôle que j'ai parce qu'elle est là. Et que ça fait partie de moi, mais je pense que je peux m'améliorer sur ça et que je peux me détendre et me dire, c'est pas grave d'être dans l'incertitude et je peux continuer à avancer quand même. J'ai pas besoin de me paralyser. Je peux me dire, bon, ben ok, même si je sais pas vraiment ce qui m'attend, même si je sais pas vraiment de quoi j'ai envie, parce que c'est ça aussi qui est extrêmement dur à vivre, c'est de pas savoir vraiment de quoi tu as envie. Là, vraiment, si tu me dis tu te vois où dans 5 ans, déjà je me projette pas dans 6 mois. Je sais pas vraiment si j'ai envie de continuer à faire le travail que je fais. Je sais pas si j'ai envie de m'installer à Paris vraiment. Je sais pas si j'ai envie de quoi. Enfin, de plein de choses en fait. Je sais pas pourquoi je vous fais une liste, mais. Il y a plein de choses dont je ne sais pas si j'ai vraiment envie de les faire, mais je me dis c'est ce qu'il y a de plus logique maintenant. Et même si peut-être que en le faisant, je me rendrais compte que c'était pas du tout ce qu'il fallait, pour l'instant, c'est l'option qu'il y avait devant moi et je l'ai prise parce qu'elle était là et que dans tous les cas, c'est un peu flou, donc pourquoi pas essayer les choses et faire les choses et pas se paralyser, pas se dire oh, c'est le flou, c'est la merde. Je vais me mettre sous la couette, faire l'autruche et attendre que ça passe et juste être triste et pas bien et me sentir inutile. Non, tu peux le faire pendant une semaine si tu veux, tu peux le faire pendant quelques jours. Je l'ai fait là en septembre, la moitié de septembre, j'ai été un petit peu en mode, je me réveillais le matin et j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Je dois faire ça, mais est-ce que j'ai envie de le faire et pourquoi je le fais? Ça n'a pas de sens. Et en fait, je suis même pas sûre que j'ai envie de faire ça, donc à quoi ça sert et... J'ai eu ça là en septembre, et là j'en arrive à la conclusion que ça sert à rien. Toutes ces questions-là, elles servent à rien. Juste quand tu sais pas, fais ce qu'il y a devant toi, avance, fais de ton mieux en fait. Voilà, juste fais de ton mieux. Fais ce que tu peux faire de mieux tous les jours, même si c'est incertain, même si tu sais pas trop pourquoi tu le fais, ça va arriver. Ça va arriver. Prends le temps. D'écrire, d'analyser tes pensées. Bon, pour les gens qui n'aiment pas écrire, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Je sais qu'à chaque fois que je poste une story ou que je dis que j'écris sur mon carnet et tout, il y a beaucoup de questions. Des gens qui me disent, mais qu'est-ce que t'écris en fait? Moi, quand je suis à un papier devant moi, je ne sais pas quoi écrire. Si vous aviez accès à mon carnet, vous seriez mort de rire. Hein. Les gars, j'écris pas. Je suis pas une grande poète. Je suis pas une écrivaine. J'écris littéralement ce qui me passe par la tête. En mode aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Voici les raisons. Merci. Bonne journée. J'écris pas merci, bonne journée, mais vous avez compris. C'est juste histoire de... J'ai toujours eu ce truc de quand j'écris quelque chose sur un papier, j'ai l'impression que ça sort de ma tête. Même si c'est encore là, j'ai l'impression que ça me soulage un petit peu et que j'ai l'impression d'y voir un peu plus clair. Parfois, ça ne m'aide pas, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que prenez quand même... Tu peux être dans un moment d'incertitude, de flou, de prendre les choses comme elles viennent, de faire les choses même si tu ne sais pas vraiment pourquoi tu les fais, mais n'oublie pas quand même de t'écouter. Enfin, ce que je suis en train de dire, c'est ne te mets pas non plus en mode autopilote. Parce que le mode autopilote, c'est un peu le mode qui te mène droit dans le mur et qui t'empêche de grandir de tout ce que... De grandir des choses que tu es en train de vivre. Oula, ça fait trop longtemps que je parle, là. Les mots n'ont plus de sens, mais... apprends de ce sentiment. En fait, les moments où tu apprends le plus dans la vie, c'est les moments où t'es le plus inconfortable. Les moments où tu te sens le plus mal, les moments où c'est pas fou dans ton ventre, genre ça, tu te sens pas bien, c'est les moments où tu vas apprendre le plus de choses et c'est les moments où tu grandis. Tu sais, quand t'es petit et que t'as mal dans les articulations, dans les bras, et que tes parents ils te disent « t'inquiète, c'est tes os qui poussent ». Ben, en grandissant, quand tes os ils arrêtent de pousser, je sais pas si c'est ton cerveau qui pousse, mais moi je le vois comme ça. Toutes les émotions négatives, je me dis « ah tranquille, c'est juste mon âme qui pousse ». Voilà, c'est mon cerveau qui se développe un peu, ça fait un peu mal, mais je vais apprendre des choses de tout ça. C'est exactement ce mindset que tu dois avoir, mais pour ça, il faut pas te mettre non plus en mode autopilote de dire « je me lève le matin ». Et je suis un robot et je fais juste les choses. Parfois, ça peut aider quand tu dois faire des choses qui sont obligatoires et voilà. Parfois, ça peut aider, ce mode autopilote. Mais parfois, tu passes à côté de certaines leçons de vie et tu passes à côté de tes propres émotions, en fait, de ce que tu veux vraiment et tu mets tout au placard. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'une fois que le placard, il est plein, il s'ouvre et c'est le bordel. Donc, écoute-toi. Process tout ce que tu vis, tes émotions, qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives, peu importe. Mais tranquille, détends-toi. Genre, c'est pas grave d'être dans le flou et tu peux avancer quand même. Tu peux avancer quand même et c'est même les moments où tu vas le plus avancer. Parce que quand tu sors du flou, comme je t'ai dit, t'arrives à destination et tu regardes derrière et tu te dis genre, ah waouh, c'est tout ça là ? Je viens de marcher tout ça dans le flou ? J'ai fait tout ce truc ? Et ça, je l'ai vécu récemment en montant un volcan. On a monté le volcan avec des personnes, je suis partie en randonnée. Et c'était dur et tout, tu vois. Et en arrivant en haut, j'ai regardé tout ce qu'on venait de monter. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Genre moi là, j'ai monté tout ce truc là. On vient du petit point tout en bas et on est tout là-haut. Ben, c'est exactement la même chose dans ta vie là maintenant. Tu vas avancer dans le flou, donc tu vois pas le chemin vraiment. Et c'est arrivé à destination que tu vas te rendre compte de tout ce que t'as fait et tu vas être fier de toi. En tout cas, je t'oblige. T'as intérêt d'être fier de toi parce que sinon, je vais te foutre des claques, moi. Enfin non, je vais pas le faire parce que voilà, mais je vais me foutre des claques à moi-même. C'est ce que j'essaie de faire là. J'arrive à la fin d'un chapitre de ma vie. Ça fait 4 ans que je suis à l'étranger. Et là, je me dis, je me sens nulle, je me sens inutile. Et puis je me retourne et puis je me dis, mais en fait, stop, sois fière. Regarde en 4 ans tout ce que t'as fait. Regarde juste. Voilà. T'es pas devenu président, ok, mais regarde tout ce que t'as fait. C'est là que je vais vous laisser, voilà. Parce que là, je pourrais parler pendant encore 3 heures. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été mon petit journal intime aujourd'hui. J'espère que j'aurai pas trop bégayé. J'espère que ma voix n'aura pas été trop énervante, parce que, voilà comment je parle aujourd'hui. Mais voilà les gars, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur le podcast, à venir me parler en DM, notamment sur le Instagram du podcast. Je sais qu'il n'est pas très actif, mais là, je vais arrêter de dire les choses et je vais les faire. donc je vais rien dire. Mais en tout cas, si vous avez des choses à me dire sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur sunshineradio-du-bas. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine. Je vous fais encore des bisous. Oh là là, le bisou raté. Oh mon Dieu.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.